La cinquième confrontation, page suivante. Donc on a la peste du bétail, les furoncles, les ulcères. On voit là quelque chose qui se dévoile chez le pharaon, parce que Dieu, dans sa grande mansuétude, a prévenu, il va y avoir une grêle qui va être mortifère. Donc rentrez vos troupeaux. Il suffit juste de reconnaître, je vais essayer au moins de suivre ce que Dieu me demande. Et lui, il laisse les troupeaux, il prévient personne, et donc il y a tout un tas de bestiaux qui meurent à cause de cette plaie de la grêle. Donc là, on voit finalement quelque chose que Pharaon a dans le cœur, qui se révèle là, en fait, hein, et qui est un contre-témoignage pour tous ses serviteurs, hein, qui va notamment provoquer le basculement d'une partie de ses serviteurs, qui vont dire, mais là, t'es en train de te battre tout seul, et tu nous mets tous en danger. Et puis on a la confrontation donc, entre Moïse et Pharaon, et cette fois je reconnais mon péché, c'est le Seigneur qui est juste, moi et mon peuple, nous sommes les coupables. Alors il y a un petit couplet, il joue du violon là, priez le Seigneur, arrêtez le tonnerre et la grêle, je vais vous laisser partir, vous ne resterez pas plus longtemps sur place. Alors moi l'élément que j'ai trouvé, moi qui me paraît pas bon, parce que je trouve que c'était difficile de voir quel élément est faux, mais en fait c'est plutôt le je vous fais une promesse dans le vide, quoi. Voilà, je vous dis quelque chose sans vous donner de signe tangible, de donner un gage de ma bonne volonté. Et Moïse, donc là on est, je pense, sur la mauvaise plante de la fausseté, l'hypocrisie, la duplicité. Voilà. Je dis quelque chose et je ne le fais pas. Je me construis un masque qui ne correspond pas à ce que je suis, à ce que je pense. Donc je vais vous laisser partir. Oui, donc on a les deux mises en danger des troupeaux qui révèlent sa malveillance. Et Moïse, lui, il reste comme un agneau parce qu'il prévient. Il dit la vérité docilement, en fait. Il dit, donc au verset 29, « Dès que je serai sorti de la ville, je tendrai les paumes des mains vers le Seigneur. Le tonnerre cessera, la grêle ne tombera plus. » Donc il dit, en gros, ok, très bien, tu me dis que tu vas nous laisser partir. Super, je vais prier alors. Je vais éloigner le fléau. Et pourtant, toi et tes serviteurs, je le sais, vous ne craindrez pas encore le Seigneur Dieu. Donc là, il est en train de dire, Dieu m'a montré, c'est pas cette plaie-là qui allait vous convertir, parce que ça n'allait rien changer. Mais je vais quand même éloigner, je vais vous exaucer, alors que vous ne le méritez pas, mais je vais quand même vous exaucer. Donc on a une contre-offensive qui est, celui qui est faux avec nous, si nous on est doublement vrai avec lui, parce que non seulement on dit, je vais éloigner le fléau de toi, je vais prier pour toi, par exemple, ça peut être un collègue de bureau qui nous fait du mal, puis on lui dit qu'on va prier pour lui, parce qu'un jour, il a un proche qui meurt, et on lui dit qu'on va prier pour lui, on sait qu'il prépare un mauvais coup contre nous, on peut lui dire, tu sais, je sais que tu prépares un mauvais coup contre moi, et que, voilà, et c'est un peu cette situation-là là, qui se produit. On est doublement vrai, c'est-à-dire qu'on va mettre deux vérités en face de la fausseté, vous voyez, on va faire 2000 pas avec la personne qui nous en demande 1000, alors qu'elle ne mérite même pas, quoi, voilà. Ça, dans la mission, c'est la meilleure arme contre l'hypocrisie, je pense. On a, en conséquence de la fausseté, la plaie de la grêle qui vient secouer, en fait, la fausseté. Hein. La grêle, c'est vraiment ce qui vient accabler celui qui est accablant par sa fausseté. On a l'emprunt à long terme aux Égyptiens. Parce que Dieu va demander, avant de partir, il va leur dire, allez emprunter de l'or, de l'argent aux Égyptiens. Et en fait, c'était un emprunt à très long terme, parce qu'ils allaient tous mourir dans la mer. Sauf que l'emprunt, c'était un vrai emprunt sur le coup. C'est-à-dire que c'était pas « on vous ment », parce qu'ils ne savaient pas encore d'ailleurs que cet emprunt, ça serait un emprunt éternel et qu'il partirait avec de grandes richesses. Mais on a finalement une conséquence de la fausseté de Pharaon, qui est Dieu va user d'une forme de fausseté en quelque sorte, parce que lui, il connaît tout, mais les hommes qui exécutent sa parole... Eux ne sont pas empreints de fausseté. Et on a l'armée de Pharaon qui se fait engloutir par la mer Rouge, contrairement aux prédictions des devins égyptiens qui connaissaient la phrase dans la Genèse, chapitre 8. Vous savez, après le déluge, Dieu dit « Je ne balayerai l'ensemble des êtres vivants par un déluge. » Il dit quelque chose comme ça, Dieu. Et en fait, les Juifs... qui commentent la Genèse disent « Pharaon a choisi de noyer les nouveau-nés parce que il se disait Dieu avait promis que plus jamais il ne ferait un déluge pour punir les méchants, quoi. Voilà. Et donc ils se sont dit on peut faire subir ça aux autres parce que Dieu ne nous châtiera pas comme ça, quoi. Vous voyez, ils s'étaient dit ça. Et en fait les rabbins qui commandent ça, ils disent mais les Égyptiens n'avaient pas imaginé que Dieu pourrait faire périr juste un petit peuple le peuple égyptien, et pas toute la terre, quoi. Parce que, c'est, en fait, dans la phrase, dans la Genèse, c'est « Plus jamais je ne ferai périr tout être vivant mondialement par un déluge », quoi. Vous voyez ? Donc, c'est rigolo parce qu'on voit des conséquences de la fausseté qui se manifestent de plein de manières différentes. Voilà. Le sixième confrontation, c'est la suspicion, je pense. Pharaon qui s'énerve, qui s'emporte, qui dit que le Seigneur soit avec vous si je vous laisse partir, vous, vos enfants, voyez comme vous cherchez le mal. En fait, il fait croire à tout le monde, mais vous êtes mal intentionné, quoi. Si vous faites ça, c'est parce que vos desseins sont pervers. Vous avez une idée derrière la tête qui est fondamentalement mauvaise. Vous voulez nous trahir, vous voulez. Donc c'est une suspicion. Je ne sais pas comment le nommer autrement, une suspicion. C'est prêter des mauvaises intentions aux autres, en fait. C'est un regard mauvais. C'est le mauvais œil que décrit Jésus avec le serviteur de la première heure et où il lui dit : mais pourquoi as-tu ce mauvais œil qui projette une lumière noire sur les autres ? Finalement, serviteur mauvais, je te donne le même salaire que tout le monde, quoi. Là, tu es en train de déformer tout ce qui t'entoure parce que tu as un œil mauvais. Et donc, on peut être un petit peu contaminé aussi par cet œil mauvais, parce qu'on est au contact de personnes qui vont nous prêter des mauvaises intentions, et nous, on va être tenté de manger de cet ivraie qui est que nous aussi, on va percevoir le monde d'une manière très négative, en fait. Moi, dans mon entreprise, par exemple, j'ai beaucoup de personnes qui se plaignent beaucoup. Et la tentation, c'est de finir par se plaindre avec eux, en quelque sorte, en disant « je vous comprends, et je mange avec vous de l'ivraie, parce que c'est vrai, vous avez raison, le monde est nul, et la chef, elle est nulle, et, etc. Voilà. » Et quand on va en mission, on est confronté à ça. Et ce que fait Moïse, c'est qu'il expose clairement qui part avec lui. Je suis dans la sixième partie. Sixième partie, verset 10. Que le Seigneur soit avec vous, voyez comme vous cherchez le mal. Et Moïse, lui, au verset 9, il disait : nous partirons avec nos jeunes gens, avec nos vieillards, nous partirons avec nos fils, nos filles, notre petit, notre gros bétail, car c'est pour nous une fête en l'honneur du Seigneur. Voilà. Il dit sans embâge, il n'a pas honte de dire : voilà quel est le projet, et je te l'expose dans les détails, même s'il se dit : la personne en face de moi va m'accuser de plein de choses, et bien il n'est pas en train de trembler, la peur n'est pas ce qui le meut. Il dit : moi je continue à annoncer joyeusement le Seigneur, je continue à exposer ce pourquoi j'ai été envoyé, et je continue, voilà. Et je pense que la meilleure arme contre la suspicion, c'est d'abord de dire les choses, de dire ce qu'on va faire, sans en rajouter non plus, mais d'exposer pourquoi on fait ça, en faisant comme si l'autre ne nous suspectait pas, quoi. Voilà. Et il expose clairement, qui va partir avec lui, en fait, comme si Pharaon allait honorer sa part de marché. La septième confrontation, c'est le Pharaon qui s'obstine, qui ne veut pas les laisser partir, et qui s'accroche, on voit au verset 24, « Votre petit et votre gros bétail devraient rester ici, mais vos enfants pourront vous accompagner. » Et pour moi, c'est la cupidité, en fait. Il s'accroche parce qu'il y a des biens qui lui échappent, en quelque sorte. Là, les hommes lui échappent, mais alors il veut quand même s'accrocher au bétail. Voilà. Et par la cupidité, il y a une tentation de bloquer des choses parce que il y a un mobile financier, il y a un mobile de posséder. Étant confronté finalement à une situation où cette plante qui nous est offerte, c'est d'amasser, d'avoir quelqu'un qui veut amasser, le risque, c'est de rentrer dans des arguments qui ne sont que financiers, alors que il y a d'abord un appel à la générosité, hein, puisque au verset 25, Moïse dit : c'est donc toi qui mettras dans nos mains de quoi offrir sacrifice et holocauste au Seigneur notre Dieu. Il dit : mais Pharaon, vas-tu être généreux avec nous ? Alors si tu veux pas nous laisser les troupeaux, et il rappelle que c'est pour offrir au Seigneur notre Dieu. C'est-à-dire que la contre-offensive du chrétien, c'est de dire finalement : tout ça, je le fais pour le Seigneur. Et l'argent que vous me donnez, vous ne me payez pas assez parce que moi, je voudrais pouvoir aider les pauvres plus. Je voudrais pouvoir nourrir mes enfants. Je voudrais pouvoir, vous voyez. Et contre la cupidité, le fait de montrer que on n'est pas attaché à l'argent et que on fait ça parce qu'il y a un dessein de partager, de mettre en commun, de rendre justice parce que c'est le Seigneur qui donne. C'est la meilleure arme contre cette mauvaise plante, voilà. Et Pharaon finalement va le secouer en disant au verset 28 « Hors d'ici, prends garde à toi, ne t'avise plus de paraître devant ma face. Le jour où tu te présenteras devant ma face, tu mourras. » Conséquence, c'est Pharaon en fait qui mourra quand il reverra Moïse, quand il sera au milieu de la mer Rouge, et que celui-ci frappera à nouveau la mer Rouge avec son bâton. Vous voyez, il va se faire balayer. En épilogue, on a la mort des aînés, la dixième plaie. qui est cette bénédiction qui va s'accomplir en fait si on fait le bon choix. En fait, Pharaon n'a pas arrêté de dire priez pour moi, etc. On voit donc dans l'épilogue au verset 31, levez-vous, sortez, ça y est, il les chasse là. C'est-à-dire que il se retrouve contraint lui-même de mettre dehors les Égyptiens, quoi. Il leur dit pas partez, il les supplie de partir, quoi. C'est vraiment, il est tellement excédé qu'il dit partez, appelez sur moi la bénédiction. Et je pense que l'erreur de Pharaon, c'est toujours de rester dans la superstition, c'est de dire, bah, il suffit que je demande à quelqu'un de prier pour moi, parce que je me sers de ce que le Seigneur m'a donné pour marchander la prière, finalement, mais moi, je ne vais pas m'engager, personnellement, alors que si la prière, elle marche quand on va prier pour quelqu'un, c'est parce que cette personne a le désir de changer, le désir de se mettre sous le regard de Dieu. Et là, on voit vraiment une superstition qui perdure, parce que dès qu'il voit que le peuple d'Israël s'est enfui, il s'endurcit et il dit, il change de sentiment, qu'avons-nous fait au verset 5, qu'avons-nous fait en laissant partir Israël? Il ne sera plus à notre service. Voilà, on retrouve un petit peu l'attachement et il y a un endurcissement. Et les rabbins d'Israël disent que, il est écrit un peu partout, Dieu, c'est Dieu qui endurcit. Parce qu'en fait, quand on s'endurcit trop, les rabbins ils disent bah, Dieu ôte même l'idée de conversion. Quoi. C'est-à-dire qu'on ne veut plus se convertir, donc quelque part, même l'idée de conversion, autant qu'elle serve à quelqu'un d'autre, quelqu'un à qui cette idée va servir, parce qu'il va avoir envie de se convertir. Voyez. Et le mystère de l'endurcissement, c'est ça, c'est que si on reprend la parabole du bon grain et de l'ivraie, la parole qui n'a pas assez de racines, les oiseaux vont les manger. Les oiseaux vont les manger parce que les oiseaux, ils vont avec leurs excréments, vous voyez, qui vont contenir des graines, ça va semer des graines à un endroit plus fertile. Et tout ce qui ne va pas servir, ça va servir à d'autres, quoi. Et grâce aux oiseaux, ça va être transplanté ailleurs. Voilà. Et on a, en conséquence pratique de ça, enfin en commentaire dans le premier livre de Samuel, et toute cette multitude saura que ce n'est ni par l'épée ni par la lance que l'Éternel sauve. Car la victoire appartient à l'Éternel et il vous livre entre nos mains. Donc dans l'épilogue, finalement, dans ce que dit Pharaon, la dernière plante, en fait, c'est peut-être la force. Ne s'appuyer que sur la force. Voilà. Parce que là, encore une fois, le Seigneur a vaincu par la mer rouge, par la grâce. Voilà, la mer, c'est l'eau que donne le Seigneur, c'est la grâce. Et il n'y a que ça qui puisse vraiment être reconnu. Voilà, on va arracher les différentes plantes vénéneuses qu'on nous donne à manger quand on va en mission. Alors, si je reviens sur les différentes plantes, on a donc l'incrédulité, hein, qu'on chasse avec le fait de rappeler ce que le Seigneur nous a demandé, et puis les conditions un petit peu sine qua non pour rester en présence du Seigneur. On a la superficialité, voilà, et donc c'est la faiblesse qui va nous aider à ne pas nous glorifier du fait que Dieu nous donne des charismes pour faire certaines choses qu'on n'aurait pas fait habituellement. On a l'ego, l'orgueil, et donc ça c'est le fait de toujours dire c'est le Seigneur qui, c'est je le fais grâce au Seigneur et le Seigneur va éloigner, voilà. On a l'imprudence, donc l'imprudence, et donc là bah, je parlais du retour aux fondamentaux. Pour nous c'est les trois blancheurs, c'est la prière, c'est voilà. On a la fausseté, l'hypocrisie. Donc de rester en fait comme un agneau au milieu des loups, de rester toujours bienveillant et de dire la vérité, et même de dire deux fois la vérité s'il y a besoin, de donner un petit peu de détails, enfin sans se, voilà, en faisant comme si la personne en face de nous n'était pas hypocrite, ça c'est très important. On a donc la suspicion, c'est un peu le même genre, la cupidité avec tout ça je vais le faire parce que je vais le donner à Dieu. Et puis la force qui est, on va recevoir de Dieu la victoire et c'est pas nous qui allons, voilà, nous on va juste être celui qui meut le bâton pour faire revenir la mer à sa place et arracher les dernières plantes. Voilà. Pour ouvrir un petit peu au niveau de cette conclusion, je pense que le contact avec les mauvaises plantes, avec l'ivraie, ça a des effets qui sont pas toujours bons parce que on est un peu contaminé. On revient chez nous et on a envie de critiquer nous aussi, ou on a envie de nous glorifier nous aussi parce qu'on a été au contact peut-être de personnes qui se glorifiaient. On est au milieu de gens qui se plaignent de ne pas avoir assez d'argent, alors on a envie de se plaindre de ne pas avoir assez d'argent. Et donc, en quelque sorte, moi je pense qu'il y a une décontamination aussi à faire, une réparation, voilà, dire Seigneur, nettoie-moi, quoi. Voilà, dans le livre des Nombres, au chapitre 19, versets 11 à 16, on dit toute personne qui a été au contact d'un mort, elle doit se purifier avec de l'eau. Voilà. Et je crois que la mort dans la Bible, c'est l'incrédulité. Voilà. Le contact avec l'incrédulité, c'est le contact avec la mort. Et donc, collé à nous, on a des tentations qui reviennent avec nous de faire comme les gens avec qui on a été en confrontation. Et ça peut être des personnes proches de nous même. Ça peut être nous qui sommes une source de tentation pour l'autre. Donc ça doit s'accompagner d'un... la meilleure chose, le sacrement de réconciliation qui va nous laver de tout ça. Dire « Seigneur, pardon, parce que moi aussi j'ai critiqué. » Voilà. C'est la réparation, en fait, de manière large. Et prière de réparation, « Seigneur, pardon, parce que moi aussi j'ai critiqué. » Ou « Pardon pour ces gens qui ont critiqué. » Ou « Pardon pour tout ce qui s'est passé. » Le chapelet de la Divine Miséricorde, le chapelet, simplement dire « Seigneur, pardon ». Et le fait de demander pardon en faisant corps avec les personnes qu'on a vues. « Seigneur, pardon aussi au nom de ces personnes, parce que moi aussi, je suis un petit peu de la famille de ces personnes, parce que c'est des collègues, parce que c'est des gens que je croise, etc. Voilà. » Donc voilà, je vous remercie pour votre attention. J'espère qu'on aura avancé un petit peu dans la compréhension de la mission. Et voilà, merci.